إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc avant de commencer, je voulais faire quelques annonces. C'est qu'il y a un frère à la mosquée de Ouattrolo, donc apparemment c'est récent, qui fait des cours chaque jour en fait. Dans divers, il y a le tafsir, il y a le hadith, il y a le fiqh. Donc c'est bien de celui qui peut participer. Et aussi le Kitab Tawhid, on le fait aussi à Bruxelles. Et on est déjà arrivé à... Oui, mais on est bien avancé. Donc celui qui est pressé et qui voudrait déjà écouter la suite, en fait, on peut écouter le dimanche sur Paltok. Le salon s'appelle Anessence. Anessence, c'est le nom d'une station de métro là-bas, en fait. Le dimanche à 11h et après l'Asr. Inch'Allah. Donc on continue dans le chapitre. Il avait dit chapitre Bab al-Dua ila shahadati Allah ilaha illallah. Donc l'appel à l'attestation, l'appel au tawhid. Et il dit Walahuma, yani le Bukhari wa Muslim an Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala yawm Khaybar. Donc selon encore le Bukhari et Muslim, dans un hadith rapporté par le compagnon Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Khaybar. Khaybar, c'est une bataille qui avait eu lieu dans Khaybar, c'est une ville en fait, dans laquelle a eu lieu une bataille. Et cette bataille était contre qui? Contre les gens du livre. Contre les juifs de Khaybar en fait. Il a dit la a'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allah ala yadayhi. Il a dit donc le jour de Khaybar, demain je donnerai le drapeau à une personne qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah et son prophète aiment. C'est-à-dire que la personne désignée, elle aime Allah et son prophète, et Allah et son prophète, ils aiment cette personne. Et Allah donnera la victoire par l'intermédiaire de cette personne. Yaftahu Allah ala yadeh, c'est-à-dire il va, par cette personne, il sera la cause de la victoire des musulmans. Donc les gens, ils ont commencé à débattre et à passer la nuit à se demander qui c'est qui va recevoir le drapeau. Donc lorsque le matin est arrivé, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun espérant recevoir le drapeau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa yashtaki aynayh. Donc on lui a dit, il se plaint de ses yeux, c'est-à-dire il est malade des yeux, il a mal aux yeux. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُوْتِيَ بِهِ فَبَسَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَى لَهُ فَبَرَعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé chercher Ali, et lorsqu'on lui a ramené, le prophète il a craché dans les yeux d'Ali, et il a guéri, comme s'il n'avait jamais rien eu. فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ وَقَالْ. Et il lui a donné le drapeau, il lui a dit, أُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكْ. C'est-à-dire, Unfuz al-Rislik, si on traduit, ça veut dire par calmement, en fait. Hatta tanzila bisahatihim, jusqu'à ce que tu arrives à l'endroit où ils sont. Thumma ad'uhum ila al-Islam, ensuite appelle-les à l'Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillah ta'ala fihi. Informe-les du droit d'Allah qui leur est imposé dans l'Islam, c'est-à-dire du droit qu'Allah assure dans cette religion. فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ. Il a juré, il a dit, par Allah, le fait qu'Allah guide par toi un homme est mieux pour toi que حُمْرُ النِّعَمِ, c'est-à-dire les bienfaits rouges. En fait, ça veut dire les chameaux rouges. Parce que les chameaux rouges, c'était les meilleurs biens, c'était ce que les Arabes y considéraient comme meilleurs. Comme salam rahmatullah. Donc, on passe directement. Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة وموالات لله ولرسوله فاستشرف الصحابة لذلك. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il avait annoncé la bonne nouvelle aux sahaba qu'ils allaient avoir la victoire sur les juifs ce jour, le jour de Khaybar, le lendemain, par un homme. La cause de la victoire sera un homme qui a une grande distinction et qui est l'allié d'Allah et de son messager. Et les sahaba, donc, ils ont trouvé ça comme quelque chose de noble, et quelque chose qu'il faut acquérir. Kullun yawaddu an yakuna huwa dhalika ar-rajul min hirsihim 'ala al-khayr. Donc chaque sahabi voulait être cet homme, parce que c'était eux les gens les plus accrochés au fait d'acquérir le bien. Falamma dhahabu 'ala al-maw'id talaba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'aliyan wa sadafa annahu lam yahdhur lima asabahu min maradi 'aynayhi. Donc lorsqu'ils sont arrivés au lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on lui ramène Ali. Mais il se trouvait qu'il n'était pas venu à cause de ce qui lui avait touché comme maladie dans ses yeux. ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك فزال ما يحس به من الألم فزال ما يحس به من الألم. C'est يحس pas يحس. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a poustillonné avec sa salive dans les yeux de Ali, radiallahu anhu, à tel point que ce qu'il ressentait comme maladie est parti, et comme douleur. Zawalan kamilan, wa sallamahu qiyadat al-jaysh. Zawalan kamilan, ça veut dire, c'est parti d'une façon complète. La maladie, elle n'a pas seulement diminué, elle est partie complètement. Et à tel point qu'on a rapporté d'Ali, radiallahu anhu, qui a dit qu'il ne s'est plus jamais plaint de ses deux yeux après ce jour-là. Wa sallamahu qiyadat al-jaysh. Et il lui a donné la direction de l'armée. Donc, pour une petite parenthèse, Sallamahu, pour ceux qui sont en train d'apprendre l'arabe, Sallama, si on dit Sallama ala, ça veut dire saluer. Par exemple, Sallamtu ala Muhammadin, ça veut dire j'ai salué Muhammad. Mais si je dis Sallamtu li Muhammad, ça veut dire j'ai donné à Muhammad quelque chose. Par exemple, Sallamtu li Muhammadin kitaban, j'ai donné un livre à Muhammad. Donc il y a Sallama qui prend la préposition Ala, ça veut dire saluer, et Sallama qui prend la préposition Li, ça veut dire donner à quelqu'un en fait. Et donc celui qui reçoit, Yastalim, on dit Istalama, c'est une petite parenthèse. Wa amarahu bil madi ala wajhi bi rifqin hatta yaqruba min husni al-adu. Et il lui a ordonné de partir avec calme, jusqu'à ce qu'il s'approche de ce qu'on appelle Al-Hus, c'est-à-dire la citadelle de l'ennemi, parce qu'ils avaient en fait des forts comme ça en hauteur qui étaient durs à franchir. فَيَطْلُبُ مِنْهُمْ الدُّخُولَ فِي الْإِسْلَامِ. Et il lui a dit de leur demander d'entrer dans l'islam, c'est-à-dire avant d'attaquer. فَإِنْ أَجَابُوا أَخْبَرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ فَرَائِدِ. Si ils répondaient, ils devaient donc leur informer les obligations qu'a un musulman. ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله. Ensuite, il lui a montré le mérite de la da'wa, de l'appel à Allah. وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية. Et que si un homme, celui qui appelle à Allah, par sa cause, un seul homme est guidé, ça c'est meilleur pour lui que les meilleurs biens qui existent ici-bas. فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. Et alors qu'en est-il si c'est plus qu'un homme qui se convertit par sa cause, comme une tribu ou un peuple.
مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان فضل الدعوة إلى ذلك.
Donc pourquoi il a mis ce hadith dans ce chapitre, c'est clair. C'est parce qu'il montre le fait qu'il est légiféré d'appeler à l'islam et que l'islam, c'est la signification de l'attestation « La ilaha illallah ». Et aussi dedans, il y a le mérite de l'appel à l'islam.
« Ma yustafadu min al-hadith »« Fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Talibin radiallahu anhu » وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. Donc dans, qu'est-ce qu'on profite de ce hadith? Premièrement, le grand mérite de, et la distinction de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Donc Ali ibn Abi Talib, Abu Talib, son père c'est qui? Par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le frère de... C'est le frère de Abdullah. C'est le fils d'Abdel Muttalib, c'est le frère d'Abdullah, le père du prophète. Donc Ali et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient cousins par leur père. Et dedans, il y a une attestation, un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi Ali, c'est un allié d'Allah et du prophète. Parce qu'il a bien dit, Allah et son prophète l'aiment. Cet homme à qui je donnerai le drapeau, lui il aime Allah et son prophète, et Allah et son prophète il l'aime. Et ça montre qu'il était doté de foi, en apparence et à l'extérieur. C'est-à-dire que, normalement on est censé juger sur l'extérieur, mais là on sait que, en ce qui concerne Ali par exemple, c'était aussi à l'intérieur. Même si ça c'est valable pour le reste des sahabas. Et donc ça, ça fait partie, bon, à chaque fois on fait les parenthèses, de la aqidat ahl sunnah, c'est-à-dire muwalat Ali. Le fait qu'on considère Ali comme un des alliés d'Allah et qu'il est le quatrième meilleur homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté. Mais il fait aussi, avec ça, il fait partie de la croyance d'ahl sunnah de le mettre après Abu Bakr, Uthman et Omar. Conformément au hadith authentique où Abdullah ibn Omar il a dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se disait le meilleur d'entre nous c'est Abu Bakr, et ensuite Omar, et ensuite Uthman. Et il a dit, et ensuite on favorisait personne. Même si le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment le hadith où le prophète il a désigné les 10 compagnons promis au paradis, il montre que Ali c'est le meilleur compagnon après Uthman ibn Affan. Parce que le prophète il a bien dit Abu Bakr fil Jannah, wa Omar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah. Et après il a cité le reste des 6. Donc il a cité Ali en 4e position. Ensuite, إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة المقدسة الكريمة. Le fait d'affirmer qu'Allah aime, il aime ses alliés d'un amour qui lui est propre et qui est propre à sa grandeur, comme on affirme le reste de ses attributs, qui sont les attributs مقدسة. Donc je ne vais pas traduire ça, qui sont les attributs d'Allah parfaits. Et ça c'est contraire à tous les autres groupes que Ahl Sunnah wa Jama'a. C'est-à-dire que même Al-Asha'ira, dans le Madhab, l'école dans l'Aqidah, c'est la plus répandue dans le monde. Il faut savoir qu'ils n'attestent pas qu'Allah aime. Pour eux, si tu dis qu'Allah aime, ils disent إِثْبَاتُ مَحَبَّةِ الْمَحَبَّةِ لِلَّهِ يَسْتَلْزِمُ التَّجْبِهِ. C'est-à-dire, si tu dis qu'Allah aime, tu as fait ressembler Allah à sa créature. Et donc l'amour d'Allah, يُؤَوِّلُونَهُ. C'est-à-dire, il le renie, mais pour ne pas le renier directement, il l'interprète et il le détourne de son sens en disant « L'amour d'Allah, ça veut dire le fait qu'Allah fait rentrer les croyants au paradis. » Donc quand Allah dit qu'il aime les croyants, ça veut dire « Il les fait rentrer au paradis. » Mais Allah n'est pas qualifié par l'amour. Et ça, c'est contraire donc au minhaj des sahaba et des tabi'in dans le fait d'attester les attributs d'Allah tels qu'ils sont venus. Et comme c'est rapporté de beaucoup parmi les salafs qu'ils ont dit à propos des sifat, « Amirruha kama ja'at bila kayf » Faites-les passer comme elles sont venues, c'est-à-dire, croyez-y, sans les détourner de leur sens. Bila kayf, sans se demander comment. Hirsu sahabati ala al-khayri wa tasabuquhum ila al-a'mali salihati radiallahu anhu. Donc le fait que les sahaba, ils se faisaient compétition. Et ils se précédaient les uns les autres dans le fait d'acquérir le bien. Radiallahu anhu. مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. Ça c'est un gros bénéfice à notre époque courtière du hadith. C'est le fait que même dans le qital, c'est-à-dire la guerre qui est légiférée, il est légiféré du fait d'avoir du adab et du calme et de délaisser les voix al-aswat al-muz'ija, ça veut dire les voix qui dérangent, le fait de crier comme des ânes. Ça, c'est légiféré de délaisser tout ça dans l'islam. Et si ça, c'est valable dans le djihad, et là, c'est pas un djihad de difa' qu'il a cité ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Ali combattre les gens de Khaybar, c'était une offensive, c'était pas une défensive. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Unfouz ala rislik. c'est-à-dire d'avancer avec calme. Et ça, c'est contraire à ce qu'on voit maintenant aujourd'hui parmi ceux qui parlent tout le temps de djihad sans connaître comment est légiféré le djihad et sans respecter les conditions, etc., etc., et qui appellent au djihad à tort et à travers. Et que quand vous les regardez, est-ce que leur comportement correspond au comportement auquel le prophète il a appelé Ali ici, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit d'avancer calmement dans un vrai djihad légiféré par le prophète. Et ceux de maintenant, tu les vois dans les manifestations, brûler les drapeaux, crier Allahu Akbar, amour bouge dans les manifestations, etc., etc. Et tout ça, c'est contraire au minhaj du prophète. Faire sortir les femmes dans les manifestations, etc., etc. Donc ça, c'est tout ça, c'est basé sur ce qu'on appelle l'awatif, c'est-à-dire les sentiments. C'est chaud au fond de la poitrine, alors on sort et on fait tout ce qui nous plaît. Mais le prophète, al-muslimu yataqayyadu bis-sunnah. Le musulman, il doit se conditionner par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les affaires qui sont d'ordre tels que le djihad ou les affaires qui concernent l'ordre général des musulmans. Donc notre atifa, c'est-à-dire nos sentiments personnels, ils ne doivent pas précéder notre conditionnement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si dans ces choses on veut se conditionner par la sunna, eh ben il faut savoir que la sunna c'est le calme. C'est pas le fait de déballer les cris, les drapeaux, les manifestations, les incendies, etc., etc., comme on le voit à chaque fois qu'il y a un incident dans le monde musulman. À la télé, tu vois les manifestations là-bas, tu vois les manifestations là-bas, ça crie, ça brûle des drapeaux, etc. Et à la fin, qu'est-ce que ça a ramené aux musulmans? Rien, si ce n'est qu'ils se tapent, entre guillemets, ils se tapent la honte. Ils ont l'air ridicules. Contrairement aux sahaba, qui donnaient une image de l'islam, une image de izza, c'est-à-dire de force, et de qui a posé le respect. Ensuite il dit أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاد عزيمة. Donc le fait que l'imam, et comme je vous avais déjà dit, l'imam dans les textes, donc quand on parle de l'imam ou dans les livres de Aqida, quand on parle de l'imam, c'est pas l'imam de la mosquée. L'imam, ça veut dire le chef, le gouverneur, c'est ça qui est voulu par l'imam. Quand on dit par exemple le fait d'obéir à l'imam, etc., ce qui est voulu c'est le gouverneur. Il dit le fait que l'imam, donc le gouverneur, il doit recommander à ses ummal, c'est-à-dire à ceux qui travaillent pour lui, al-rifq wal-lin, c'est-à-dire la douceur et le calme, sans faiblesse et sans que leur motivation elle diminue. Donc c'est un juste milieu entre ceux qui baissent les bras et ceux qui font passer les sentiments et la rage entre guillemets avant leur conditionnement à la sunna. وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. Le fait qu'il est obligatoire d'appeler à l'islam, surtout avant le combat avec les mécréants. أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتالهم. Le fait que, donc là encore on parle d'une dawla, parce qu'il faut regarder le contexte du hadith, c'est bien le prophète Hassan qui est chef d'un gouvernement et d'un État qui envoie des ambassadeurs. Et donc il dit ici, Shir, c'est le fait que celui qui ne veut pas répondre à la da'wa, donc dans un tel cas, il est obligatoire au gouverneur de lui déclarer le djihad. Et donc ça peut être pour ceux qui commencent à connaître la sunna ou qui rentrent dans la religion, au début ça peut, ou qui se convertissent à l'islam, au début c'est difficile à comprendre. Le djihad. Ils disent comment ça? Les gens ils rentrent dans l'islam par la force. Et si on regarde l'histoire de l'islam, c'est comme ça que les gens sont rentrés dans l'islam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de ceux qui attaquent l'islam en disant ouais, l'islam il s'est répandu par la force. Et les ignorants de l'islam qui leur répondent en face, non, c'est pas vrai, l'islam c'est la religion de la paix, etc. Il ne faut pas rentrer dans le jeu. L'islam est rentré dans les pays par la force. Les Perses ils sont rentrés dans l'islam par la force. Les chrétiens de Byzance ils sont rentrés dans l'islam par la force. L'Égypte est rentrée dans l'islam par la force, le Soudan est rentré par la force, à Khorasan, etc., jusqu'en Asie, tout ça, les Maghrébins, les Kabyles, les Berbères, ils sont rentrés par la force. Donc il ne faut pas rentrer dans le jeu. Quand on nous accuse comme quoi l'islam est rentré dans les pays par la force, non, c'est pas vrai. Oui, il est rentré par la force. Et c'est ça qu'Allah il a légiféré. Il a légiféré que quand le gouverneur musulman il a la force, il déclare le djihad pour répandre l'islam. Et ça, c'est. Les ulama disent que c'est le sixième pilier de l'islam. Certains disent que c'est comme si c'était le sixième pilier d'islam. Donc j'espère qu'on ne va pas nous fermer Camus la semaine prochaine. Mais il faut dire le haq, il faut expliquer l'islam tel qu'il est. Et de toute façon, alhamdoulilah, on n'a rien à cacher. C'est pas grave. Mais justement, il vaut mieux expliquer le djihad sous sa vraie forme plutôt que de le cacher et d'être hypocrite envers les mécréants et d'après, qu'après ils découvrent des choses et qu'on leur ait caché, ou alors de montrer l'image du djihad qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire soit la sauvagerie non conditionnée, ou alors le fait de dire non, mais le djihad c'était avant, maintenant il ne reste que djihad neuf. Le djihad il est légiféré dans l'islam, mais il est légiféré avec des conditions entre les deux extrêmes. Et donc au début c'est dur de comprendre, quand on rentre dans la sunna ou dans l'islam, de comprendre la sagesse qu'il y a dans le djihad, comment les gens ils rentrent dans l'islam. Et ça c'est comparable à un malade qui ne voudrait pas se soigner, et toi tu veux son bien, tu veux qu'il se soigne, mais lui il est persuadé que sa maladie là c'est du bien. Ou alors par exemple quelqu'un qui sera attaché à la drogue et tu lui dis non, il faut que tu te détaches de la drogue, et lui dit non, moi je suis bien comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu l'attrapes, tu lui fais prendre une douche froide, cure de désintox, etc., etc. Ou le malade, tu lui fais une piqûre, ça fait mal. Tu lui fais un traitement, une cure, ça fait mal. Mais quel est le résultat à la fin? C'est son bien à lui. Donc les musulmans, quand ils ont fait le djihad, c'était pas pour piller et massacrer. Surtout que le djihad, comme il l'a légiféré le prophète, c'est sous un imam et un drapeau, donc sous le commandement d'un imam digne du nom, pas quelqu'un qui est dans une grotte et qui s'est fait prêter serment par 10 personnes. En sortant sur le gouverneur des musulmans, par un imam, ça veut dire par le gouverneur mis en place et reconnu par les musulmans, qui déclare le djihad armé contre armé, et non pas comme ceux qui critiquent l'islam pour la sauvagerie, ils font armé contre population, comme eux ils font maintenant. Donc ils critiquent l'islam sur la sauvagerie, mais si vous regardez leur waqi'a à eux, leur actualité, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils envoient des armées contre des peuples, contre des enfants, contre des femmes. Et l'islam, il a interdit ça. L'islam, il envoie une armée contre une armée. Et une fois que l'armée de l'islam, elle a pris l'armée d'en face, elle ne fait pas de ce qu'on appelle, comme on dit ici, le hagra. Elle ne fait pas de pillage, elle ne fait pas de viol, elle ne fait pas, etc. Ce qui est légiféré, c'est de virer, entre guillemets. Donc, l'armée musulmane, elle enlève l'armée d'en face, elle prend la tête. C'est pourquoi, c'est quoi la hikmah qu'il y a dans ça? C'est d'instaurer l'islam, qui est le bien des gens, dans lequel il y a la justice, dans lequel il y a le fait de sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et de mettre chaque personne à sa place. C'est-à-dire que le pauvre, il ne sera pas lésé, et le riche, il ne sera pas volé, etc., etc. Le blanc, il ne sera pas différencié du noir. La femme, elle sera mise à sa place, l'homme à sa place, etc., etc. Donc c'est ça la sagesse qu'il y a dans le djihad. Et c'est légiféré. Et le prophète, les versets dans le Coran, ils sont clairs. Et mais le but qui est derrière ça, c'est comme Allah il a dit dans le Coran. C'est-à-dire que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est-à-dire d'imposer l'islam sur terre. Et quand vous regardez dans l'histoire les pays où l'islam il est rentré par le djihad, eh ben, la première génération elle a vécu la guerre, mais les générations, ou la même génération, ils sont vite convertis. Pourquoi ? Qui sait pourquoi ? Parce que les musulmans ils appliquaient le vrai islam. Et quand les gens ils se sont fait imposer l'islam, mais après ils ont vu ce que c'était, ils sont rentrés de bon cœur dans l'islam. Comme par exemple c'était connu que les esclaves, ils sont rentrés en masse dans l'islam au début de l'islam. Comment ils rentrent dans l'islam alors qu'ils sont esclaves? Ils sont possédés par quelqu'un. Normalement, ils devraient avoir de la haine. Mais ils rentraient dans l'islam, c'est en voyant son maître, donc celui qu'il possédait, musulman, comment il le traitait. Et il le fait manger comme il mange, il l'habille comme il s'habille, et il l'aide quand il lui demande une tâche, etc., etc. Et là, il s'est dit, donc cette religion, ça peut venir que d'Allah. Et c'est pour ça que certains esclaves, c'était même des ulama dans l'islam. Ils ont été affranchis, ils sont devenus des ulamas. Et aussi, les populations qui sont rentrées dans l'islam par le djihad, demander à un turc, à un berbère, quoique les berbères, ou une bonne partie des berbères, à un perse, est-ce que tu as la haine que l'islam il soit rentré chez toi? Et grâce à Allah, la grande partie, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire comme un malade à qui t'a donné une piqûre, il va dire je suis bien content qu'on me l'ait mise, cette piqûre. Lui, il va dire oh, je suis bien content que l'islam soit rentré dans mon pays. Même si c'était par la force, mais c'est ce qu'il fallait pour sortir les gens des ténèbres à la lumière. Et en vérité, c'est un bien pour les gens parce que ça les libère de quelque part de la dictature qui vivent. Parce que quand ils sont dans un pays qui est manié par la mécréance, ils subissent une injustice en vérité, le peuple. Qu'ils s'en rendent compte ou qu'ils s'en rendent pas compte. Et donc l'islam, il a légiféré de les sortir de ça pour les mettre dans la justice de l'islam. Ensuite, il dit أن الدعوة تكون بالتدريج فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام. Donc là, il a dit الدخول, الله أعلم, الدخول في الإسلام بنطق بالشهادتين ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. Donc le fait que la da'wa, elle est par progression, par étape. Et que la première chose qu'on demande aux non-musulmans, c'est le fait de rentrer dans l'islam en prononçant al-shahadatayn, c'est-à-dire les deux attestations. Et ensuite, on l'informe à ce qui est sur les obligations de l'islam. Donc ça, c'est contraire à ce qu'il faut aux certains, c'est-à-dire faire rentrer l'islam, faire rentrer les gens dans l'islam comme ça, sans s'intéresser, est-ce qu'ils ont compris l'islam ou pas. Là, Cheikh, il a dit, on lui fait prononcer al-shahadatayn. Et on avait déjà expliqué dans les cours de Tawhid que al-shahada, ça veut dire le témoignage. Il y a une différence entre al-qawl et shahada. Ce qu'on demande aux gens, c'est pas de dire la ilaha illallah, c'est de témoigner al-shahada de la ilaha illallah. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est pas un club. Dis vite la ilaha illallah pour que tu rentres et qu'on soit plus nombreux. C'est pas ça qui est voulu. C'est al-shahada. Al-shahada, c'est pas dire la ilaha illallah. Al-shahada, c'est dire la ilaha illallah en remplissant les sept conditions. C'est-à-dire en connaissant sa signification globale, en étant sûr de ce qu'elle implique, en aimant ce qu'elle implique, en appliquant ce qu'elle implique. Donc c'est ce qui est voulu, c'est pas faire rentrer les gens dans un groupe, dans un club, comme une carte de membre. Dis la ilaha illallah pour faire gonfler le groupe. Ce qui est voulu, c'est leur demander ash-shahada. Et ash-shahada, ça implique que tu sois assuré que tu lui aies expliqué l'islam avant. Parce que parmi les conditions de shahada, on avait expliqué ça à la science. C'est-à-dire, il faut qu'ils connaissent la signification de la ilaha illallah. Ensuite, on lui ordonne les obligations de l'islam. Et ça, c'est la voie dans la da'wah. Donc, contrairement à beaucoup de gens maintenant, donc ils prêchent dans les rues et ils s'empressent de ramener les jeunes à la mosquée. Mais si tu leur demandes qu'est-ce que c'est que la ilaha illallah, ils ne savent pas. Et les jeunes, quand ils la ramènent à la mosquée, tout ce qu'ils leur expliquent, c'est... Tout ce qu'il leur faut, c'est leur faire manger du couscous, c'est leur expliquer des histoires pour bouger un peu leur cœur, etc. Mais ils ne leur apprennent pas les bases. Alors que la da'wa de Ahlus Sunnah wal Jama'ah, c'est de faire rentrer les gens déjà dans l'islam. C'est que la personne, si tu la ramènes à la mosquée, c'est pas juste pour la ramener à la mosquée, pour faire un groupe, pour grossir le groupe. C'est pour lui faire comprendre c'est quoi shahada. Une fois qu'il a compris, lui expliquer la salat, la zakat, etc., etc. C'est pour ça que donc, le groupe dont je parle, si vous observez bien, il y a beaucoup de jeunes qui sont avec eux, et ça dure un mois ou deux, et après ils repartent. Ils repartent dehors. Parce que ce n'est pas basé sur la voie prophétique. Ensuite, il dit « Fadlu al-da'wati ila al-islami wa ma fiha min al-khayri lil-mad'ui wa al-da'i » Donc le mérite de la da'wa à l'islam, et ce qu'il y a dedans comme bien pour celui qui appelle et pour celui qui a appelé. « Fal-mad'u qad yuhtada qad yahtadi » pardon. Celui qui est appelé, peut-être il va se guider. Et celui qui appelle, lui, il reçoit une grosse récompense. Et il y a aussi un hadith donc, qui dit ou alors celui qui indique le bien, il est comme celui qui le fait. Ou alors le hadith du prophète où il dit Man sanna fil islam sunnatan hasana, kana lahu ajruha, wa ajru man amila biha min ba'dihi. Celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, cela c'est dans le sens linguistique, ça veut dire une bonne habitude, qui est à la base légiférée. Il aura le mérite de l'avoir appliqué et le mérite de ceux qui le suivront dans cette sunna, sans que leur récompense ne diminue. Dalilun min adillati nubuwati rasuli sallallahu alayhi wa sallam. وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. Une preuve parmi les preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a annoncé la victoire avant qu'elle arrive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le fait qu'une personne guérisse par le fait que sa salive elle touche la personne. Et ça, donc, ça c'est bien de connaître ces choses-là dans l'appel au kuffar, parce que c'est-à-dire, ça c'est pas une histoire qui est arrivée. Les hadiths dans ce sens, ils sont très nombreux, à tel point qu'une personne raisonnable, elle peut pas le renier. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que, par exemple, l'eau, elle est sortie de ses doigts, et il a fait boire et faire les ablutions à un millier de personnes à peu près. Et ça, c'est des hadiths qui sont
si on les regroupe, on appelle ça mutawatira. Ça veut dire, il y a un tel nombre de personnes qu'il l'a rapporté d'un tel nombre de personnes à chaque fois, qu'il est impossible raisonnablement que tous ils se soient mis d'accord pour mentir. Et donc, une personne à qui tu montres ça, il ne peut que accepter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réalisé des vrais miracles. Donc c'est comme une fois, ça, une discussion entre un musulman et un chrétien, et le musulman et donc il disait, moi je, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque tu, vous croyez au miracle de Isa, et c'est ça qui vous fait croire à Isa, alhamdoulillah, mais il faut que vous croyez aussi à Mohammed, parce que lui aussi il a les miracles. Mais la différence entre nous et vous, c'est que nous, les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on vous les atteste avec des chaînes de transmission, et qui sont rapportés par des tels nombres de gens à chaque fois que vous ne pouvez pas le renier. Donc il ne faut pas avoir honte de parler des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un non-musulman, parce que s'il te dit ouais mais ça c'est des vieilles histoires, ça serait des vieilles histoires si c'était comme ils le font les gens du livre, c'est-à-dire c'est des histoires, il n'y a pas de chaîne de transmission, ou comme ils font certains groupes musulmans, un dauphin qui a fait ci, qui a fait ça, les gorilles qui faisaient des doigts et tout, sans chaîne de transmission, là ouais, là on peut remettre en cause, mais là on ne peut pas remettre en cause, parce que c'est dans des livres avec des chaînes de transmission qui comportent des centaines de rapporteurs qui étaient connus pour leur véridicité, piété, etc., etc., et qui n'ont pas pu se mettre tous d'accord pour mentir. Et les miracles du prophète, il y a des livres qui ont été écrits sur ça. Donc une personne raisonnable, elle ne peut pas le renier. Et ça, ça fait remonter la foi aussi. Quand une personne, elle commence à avoir des waswas de shaitan, il faut qu'elle se rappelle ça. C'est-à-dire le prophète, il n'a pas pu faire ça, si ce n'est qu'il est un prophète.
الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها.
La fait de croire au destin. القضاء والقدر. Le fait de croire au destin. Parce que quand vous regardez dans l'histoire, celui qui a acquis le drapeau, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à l'avoir. Et ceux qui ont cherché à l'avoir, ils l'ont pas eu. Et ça, ça arrive dans la vie de tous les jours. Donc il faut que, ça prouve que la fin, l'acquisition, elle dépend du destin d'Allah. Une personne, elle peut faire toutes les causes pour arriver à son but et elle ne l'a pas. Et une personne, elle ne fait aucune cause et elle a acquis ce que l'autre, elle voulait. Ce qui prouve que l'acquisition, au final, elle revient au destin.
أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّسَمِّي بِالْإِسْلَامِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ وَاجِبَاتِهِ وَالْقِيَامِ بِهَا.
Le fait qu'il ne suffit pas, le fait de se dire musulman. التَّسَمِّي بِالْإِسْلَامِ. Le fait de dire je suis musulman, mais il faut absolument connaître les obligations de l'islam et les appliquer. D'où il sort ça? C'est dans le hadith de Ali, parce que le prophète lui a bien dit informe-les, appelle-les à l'islam, et s'ils te répondent, informe-les de ce qui leur est obligatoire dans l'islam. Donc il ne lui a pas dit fais-les vite rentrer dans l'islam et ça nous suffira. Et ça montre aussi la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était juste un imposteur qui s'occupait d'avoir un groupe autour de lui et d'être un roi, déjà il aurait profité de sa position par les richesses, etc. Or le prophète, on sait, sallallahu alayhi wa sallam, il dormait sur de la paille dans une chambre plus petite que celle de Camus, parce que la chambre de Aïcha, les maisons du prophète, elles étaient plus petites que les chambres de Camus, à tel point que si tu t'allonges, ton pied il touche l'autre bout. À Camus, si tu t'allonges, ton pied il va pas toucher l'autre bout, t'as la place de mettre un lit. D'où on sort ça? C'est le hadith où Aïcha, elle raconte que quand elle priait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il se prosternait, il touchait ses pieds. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de la place pour quelqu'un qui s'allonge et quelqu'un qui prie sans qu'il se touche. Ça, c'était la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'a pas, si c'était un imposteur, et les imposteurs ils font ça, c'est pour des biens d'ici bas. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il s'assurait que les gens ils comprennent son message et qu'ils rentrent réellement dans l'islam. Alors que si c'était juste quelque chose pour regrouper les gens, ils auraient fait juste rentrer dans le groupe et c'est tout.
Ensuite il dit باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
Chapitre de l'interprétation, l'explication du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah. En fait ici il répète, quand il dit le tawhid et l'attestation, en fait c'est, il répète deux synonymes en fait.
Donc là je lis, il dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد.
Pourquoi il a mis ce chapitre à kitab tawhid? Là je le lis parce qu'on pourrait se demander. Il dit
لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك بين رحمه الله في هذا الباب معناه لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه
فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط.
Donc il dit, lorsque le cheikh il a mentionné le tawhid dans les chapitres précédents et les mérites du tawhid, le fait d'appeler au tawhid, le fait d'avoir peur de ce qui est contraire au tawhid, qui est le shirk, là il montre un chapitre pour expliquer la signification du tawhid, parce que certains ils se trompent dans la compréhension du tawhid en pensant que la signification du tawhid c'est seulement le fait d'attester al-rububiyya, c'est-à-dire le fait qu'Allah est, c'est quoi les trois significations principales dans al-rububiyya? On avait vu ça. C'est le possesseur, gérant et créateur de l'univers. Et donc certains ils pensent que le tawhid c'est juste accepter ça.
Wa hadha laysa huwa al-murad bi at-tawhid, alors que c'est pas ça qui est voulu par at-tawhid. Wa innama al-murad bihi ma dallat alayhi an-nusus allati saqa al-musannif rahimahullah tarafan minha.
Et ce qui est voulu donc par le tawhid, c'est pas ça, mais c'est plutôt ce qui est prouvé dans les textes, notamment les textes que parmi lesquels les textes que l'écrivain, c'est-à-dire Mohammed ibn Abdul Wahhab, a cité. Donc allati saqa al-musannif rahimahullah tarafan minha fi hadha al-bab min annahu ifradullah bil ibadati wal khulus min ash-shirk.
Donc il dit au contraire c'est le fait d'adorer Allah seul, c'est-à-dire de vouer l'adoration à Allah seul et se débarrasser du shirk, comme il le montre dans ce chapitre là.
Et en fait, certains ulama ils disent ce chapitre c'est qu'une intro avant de développer, parce qu'ici il va montrer les grands axes du tawhid et après il va détailler, il va parler d'étalissement, du fait d'égorger pour atteindre Allah et le fait de chercher la baraka dans autre que ce qu'Allah a déclaré, etc., etc.
Donc il a dit wa qawli Allah ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
Donc Allah dit ici dans Surat Al-Isra, ceux-là qui invoquent ou alors qui adorent cherchent vers leur Seigneur, Rabbihim, vers leur Dieu, une wasila, ça veut dire une intermédiaire. Donc c'est-à-dire ceux qui adorent. En fait, on peut traduire de deux façons. Le verset a deux significations. Ceux qui adorent, c'est-à-dire les croyants, cherchent un moyen de se rapprocher d'Allah. Et lequel d'entre eux est le plus proche? Ayyuhum akrab. Et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et certes, le châtiment de ton Seigneur est à redouter. Et on peut le comprendre d'une autre façon. Parce qu'il dit, Ulaika alladhina yad'un. Ceux qui adorent. Mais en fait, on peut comprendre ceux qui adorent, c'est-à-dire qui font l'adoration, les croyants, et donc ils ont ces caractéristiques. C'est-à-dire ils craignent Allah, ils espèrent sa récompense. Mais on peut comprendre aussi ceux qui sont adorés, c'est-à-dire أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ. Ceux que ceux-là, c'est-à-dire les arabes polythéistes, adorent, ceux-là, ils ont ces caractéristiques. C'est-à-dire les idoles à la base, c'est des gens qui, donc parmi les anges qui sont adorés en dehors d'Allah, ou les prophètes, ou les hommes pieux, ceux-là sont des gens qui cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah. Le verset il laisse supposer les deux significations.
Donc là ici Cheikh il choisit une de des significations en disant yad'un ay yad'unahum min dunillahi wa hum al-mala'ikatu wal-anbiya'u was-salihin was-salihun wa ghayruhum fad-damir al-fa'il fi yad'una raji'un ila al-kuffar.
Donc Cheikh ici il choisit le fait que Yad'un, ça veut dire ceux qu'ils invoquent. Ceux-là qui sont invoqués par ces gens des Arabes. Ceux-là, donc en fait, ça désigne qui? Les anges, les prophètes et les hommes pieux. Donc ceux-là cherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils les adorent, alors que ceux-là qui sont adorés, eux-mêmes, ils recherchent à se rapprocher d'Allah. Et ils craignent son châtiment et ils espèrent sa miséricorde.
المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه.
Donc la signification globale du verset c'est qu'Allah nous informe que ceux qu'invoquent les polythéistes en dehors d'Allah parmi les anges, les prophètes et les hommes pieux, c'est-à-dire qu'ils sont invoqués en dehors d'Allah par les polythéistes, ceux-là ils cherchent et ils se dépêchent de se rapprocher d'Allah et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment.
فإذا كانوا كذلك كانوا من جملة العبيد فكيف يدعون مع الله تعالى.
Et s'ils sont comme ça, alors ils font partie des adorateurs et des serviteurs d'Allah. Et s'ils sont adorateurs d'Allah, comment on va les adorer en dehors d'Allah alors qu'eux-mêmes ils sont adorateurs d'Allah?
Et
eux-mêmes ils sont occupés par leur propre personne.
Ils invoquent
Allah, ou alors ils adorent Allah, et ils cherchent, ils se rapprochent d'Allah, ils prennent comme moyen pour se rapprocher d'Allah l'adoration d'Allah. C'est-à-dire ils adorent Allah pour se rapprocher de lui, et ils sont occupés par leur propre situation, et ils sont des adorateurs d'Allah. Donc si c'est ça leur situation, comment on les invoque en dehors d'Allah?
Donc ma yustafadu min al-aya, donc il dit d'abord munasabatu al-ayati lil-bab, pourquoi il a mis ce verset dans ce chapitre.
أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضراء أو تحويله لأن ذلك هو الشرك الأكبر.
Donc en fait, pourquoi il a mis ce verset, c'est parce qu'il montre que la signification du tawhid et de l'attestation de la ilaha illallah, c'est le fait de délaisser ce qu'ils font les polythéistes comme adoration des hommes pieux, ou alors le fait de chercher leur intercession pour qu'ils les rapprochent d'Allah, ou alors pour qu'ils ils repoussent de le mal ou qu'ils le changent en bien, parce que ça c'est le shirk al-akbar.
Donc ça montre que le tawhid, c'est pas de suffire de croire en un Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. Donc contrairement à beaucoup de gens maintenant, ils croient en un Dieu unique, mais ils font ces choses là donc lui il a voulu montrer que le vrai tawhid, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est ça implique l'adoration d'Allah seul, et s'écarter de ce qu'ils font les polythéistes comme adoration des hommes pieux, des prophètes, des anges, etc.
Et pourquoi en vérité le shirk, c'est une des causes qui a fait que le shirk s'est répandu à ce point dans la communauté musulmane, et que si tu demandes à une grosse partie des musulmans dans les pays musulmans, c'est quoi la ilaha illallah, il te dit la khaliqa illallah, il n'y a de créateur qu'Allah. Il te dit la même réponse, ou plutôt la réponse qu'il te dit, c'est quelque chose auquel Abu Jahl et Abu Lahab, les ennemis du prophète, ils croyaient aussi. Et eux, ils avaient compris la signification de la ilaha illallah comme quoi c'est la ma'bouda haqqun illallah, il n'y a pas de vrai adoré sauf Allah, il n'y a personne qui mérite l'adoration sauf Allah. Et les gens qui se disent de l'islam maintenant, ils ne l'ont pas compris. Une des causes à ça, c'est la répansion dans les pays musulmans de ce qu'on appelle madhhabu ahli al-kalam, c'est-à-dire le madhhab dans la aqida des gens de la spéculation, parmi le Jahmiya, le Mu'tazila, l'Asha'ira et le Maturidiya. Parce que dans ces gens-là, qui sont inspirés de la philosophie, quand tu lis leur livre de Tawhid, ça consiste seulement à attester le fait qu'Allah, que le monde a un créateur, et que ce créateur, il est savant, il voit, il entend, il parle, il veut, c'est-à-dire il a de la volonté, il vit et il est capable. C'est cette qualité là c'est tout. Et donc dans leur livre, ils se battent à démontrer ça avec des preuves logiques, alors que ça, c'est quelque chose que Quraysh et les Koufars à la base, et même les êtres humains en général, ils admettent. Et c'est pas pour ça que les prophètes, ils ont été envoyés. Donc c'est à dire que dans le tawhid, ils se sont concentrés sur ça, sur tawhid al-rububiyya, alors que ça, c'est pas la base, le but dans le message des prophètes. Ça au contraire, c'est quelque chose qui était admis, notamment chez les koufars, chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, il a été envoyé. Et ils sont écartés du vrai tawhid, qui est tawhid al-uluhiyya, qui est lui le but, et qui est lui le but visé dans le message des prophètes. Et le fait qu'ils soient tus à ce sujet, et c'est parce que eux-mêmes aussi ils ne le maîtrisaient pas, et c'est pour ça que certains d'entre eux ils autorisent le fait de chercher la baraka sur les hommes pieux ou sur les tombes, etc., etc., et ben ça a fait que le shirk qui s'est répandu, parce qu'il n'y a personne qui appelait à ça, jusqu'à ce que Allah il ait permis à Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah de renouveler ça, cet appel au tawhid, qui est l'héritage d'Ibn Taymiyyah avant lui. Et avant ça, c'est-à-dire le tawhid, il était ignoré. Le tawhid, c'était seulement attester qu'Allah il est le créateur, et que le monde il est un créateur. Et même, parce qu'on a l'habitude de dire Asha'ira, c'est les plus proches de Ahl Sunnah, en vérité il vaut mieux dire c'est les moins loin d'Ahl Sunnah,
Parce que même quand ils attestent cet attribut à Allah, c'est-à-dire Al-Asha'ira, ils attestent qu'Allah il a Al-Ilm, la science, Al-Qudra, la capacité, Al-Kalam, la parole. Mais la parole, ils l'attestent d'une façon bizarre. Al-Sam'a, l'ouïe, Al-Basar, la vue, Al-Hayat, ça veut dire la vie, et Al-Irada, ça veut dire la volonté. Donc sur ça, ils sont en accord avec Ahl Sunnah. Contrairement au Mu'tazila par exemple, qui attestent aucune qualité à Allah, même ces sept-là. Mais dans leur façon de les attester, ils divergent de Ahl Sunnah d'une divergence énorme. C'est que Ahl Sunnah wa Jama'a, pourquoi ils attestent ces attributs à Allah, ces sept-là et les autres aussi, c'est parce qu'ils sont cités dans le Coran et la Sunnah. C'est-à-dire que la base de Ahl Sunnah dans l'affirmation des attributs d'Allah, c'est la révélation. Et eux, ils l'attestent parce que la raison, elle indique ça et elle applique ça. C'est-à-dire qu'un être humain normal qui croit en Dieu, sans qu'il connaisse le Coran et les hadiths, si tu lui dis est-ce que Dieu, il est savant ou ignorant, il va te dire il est savant. Il comprend de lui-même que Dieu, il vit. Que Dieu, donc ça, je parle dans leur langage, Dieu, il est vivant. Dieu, il veut, il a une volonté. Dieu, il voit, Dieu, il entend, etc., etc. Donc ils affirment ça parce que c'est logique, pas parce que c'est cité dans le Coran et la Sunna. Et c'est pour ça que ce qui est dans le Coran et la Sunna, eh ben, ils le rejettent et ils l'interprètent. Donc pour eux, l'affirmation, c'est pas comme chez les gens de la Sunna. Ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on profite de ce verset ? الرد على الذين يدعون الأولياء والصالحين في كشف الضر أو جلب النفع بأن هؤلاء المدعوين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون ذلك لغيرهم. Et une réplique à ceux qui adorent les awliya, c'est-à-dire les hommes pieux, pour leur demander d'enlever leur mal ou de leur donner du bien, dans le fait que ceux-là qu'ils invoquent, ces hommes pieux, donc qu'ils soient morts ou vivants, ils ne possèdent déjà pas le bien ou le mal pour eux-mêmes. Alors comment ils le possèdent pour autre qu'eux ? Eux-mêmes, ils sont occupés par le fait de se rapprocher d'Allah et d'éviter son châtiment. Alors comment ils vont éviter le châtiment à autre que eux-mêmes ? بيان شدة خوف الأنبياء والصالحين من الله وبيان رجائهم لرحمته. Dedans, on comprend aussi la grande peur qu'ont les prophètes et les hommes pieux d'Allah. Parce qu'Allah, il les a vantés ici comme quoi c'est des gens qui espèrent la miséricorde d'Allah, qui craignent son châtiment. Et le fait qu'ils espèrent sa miséricorde. On va s'arrêter là, inchallah, parce que j'arrive plus à parler. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu